recherche d'une nouvelle conception de vie rejette résolument toute la tradition économique française qui débute avec la révolution industrielle, qui cherche à transformer le monde en augmentant la puissance des hommes sur le monde. Or, nous estimons que l'homme doit vivre dans le monde à côté des espèces vivantes, plantes et animaux autres que lui, sans vouloir les dominer, de façon à maintenir un monde vivable pour les générations futures, les représentants des non-nés.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
C'est presque des vœux hein, que vous avez entendu. C'était René Dumont dans les années 1970. CO2, mon amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Avec Éric Mainviel et Philippe Duclos à la technique et assisté de Stéphane Combe, d'eau d'Émilie Judaïque. Sans oublier Albert Hook du Maine-et-Loire, c'est Christophe Imbert qui réalise cette émission. Janvier, période des grandes résolutions, des petites révolutions et les sujets inusables sans cesse recyclés. Alors c'est vrai que dans CO2 mon amour, à la fibre bucolique et environnementale assez affirmée, le recyclage, ça nous connaît. On a donc imaginé quelques pistes pour vivre davantage en paix avec la nature. C'est parti, bon c'est promis, je vais cesser d'étouffer de mes baisers impatients tous les crapauds que je croise dans mon jardin. Ils refusent obstinément de se transformer en Georges Clooney et bien tant pis. Si je me pique d'architecture, certes il y a le patrimoine, mais j'élargirai mon goût. Une abbaye, un dolmen, un portique écotaxe, c'est très joli, c'est formidable, mais une simple alvéole d'abeilles mérite aussi un intérêt majeur. Et puisque j'en parle, eh bien oui, cette année, soyons tout miel avec les hyménoptères. Quant à cette toux, vous savez, d'herbes rebelles qui poussent au milieu de notre jardin grévillonné, eh bien je m'engage à la laisser tranquille, puisque j'ai eu la bonne idée de résilier mon abonnement à Roundup Magazine. Rien ne m'oblige à chercher le pain à 500 mètres au volant de mon diesel, semeur de panache de particules fines, mais une fois que j'aurai récupéré mon masque à gaz, je me prouverai que je peux, oui, y aller à pied. Peut-être aussi chercherai-je durant cette année à rapprocher les peuples, œuvrer pour un jumelage des grands projets inutiles, ça aurait une certaine tenue, un aéroport de Loire-Atlantique au hasard, jumelé avec le barrage de Belo Monte au Brésil, ce serait une certaine idée d'un autre progrès. Alors quel braquet choisir avant d'enfourcher votre petite reine et l'année naissante? Quelle route emprunter? Celle qui monte vers des sommets de clairvoyante sobriété ou celle qui dévale vers un chacun pour soi? Le business à zoujol, comme on dit, est tentant de facilité. À la croisée des chemins de l'humanité, la route est encore jolie, rassurez-vous. Lorsqu'un seul être humain rêve, ce n'est qu'un rêve. Lorsque plusieurs humains rêvent ensemble, et là on le sait, c'est le début d'une nouvelle réalité. Alors en 2014, que les petites graines citoyennes vertes continuent de pousser à la base et germent à travers le monde et grossissent, vous savez, comme dans Jack et les haricots magiques, pour monter jusqu'à nos décideurs. Pensez d'ailleurs aussi à cet homme, ce jeune garçon du XVIe siècle, qui nous parlait de servitude volontaire, un genou à terre. Là aussi on peut réfléchir. Les idées ne manquent pas, il n'y a plus qu'à les mettre en pratique. Et quitte à verser un peu plus dans le marronnier, nous vous souhaitons à toutes et à tous une année avec suffisamment de boulot, pas mal de charme et surtout bien plus de être que d'avoir. Alors ça va être une émission spéciale vœux, Frédéric Denry nous a rejoint dans ce studio, mais pour débuter l'année, bien je vous offre cette pastille musicale. Il s'agit en fait de trois jeunes garçons. Ceux-là sont très intéressants parce qu'ils ont créé un groupe en Picardie qui s'appelle les Chanteurs d'Oiseaux. Nous sommes dans la baie de Somme. Ils s'appellent Jean Boucaud, Johnny Ras et Jérôme Alâtre. Et j'allais presque dire qu'il ne leur manque plus que les plumes. Voilà, une petite pastille comme ça de la baie de Somme, fulgurance de lumière aussi dans cette baie de Somme, avec les chanteurs d'oiseaux Jean Boucaud, Johnny Ras et Jérôme Alat qui étaient dans le studio il y a quelques temps pour enregistrer ces petits sons, comme ça on pourra bien les retrouver. Donc des vœux tout à fait, j'allais dire en acier inoxydable parce que ce sont les plus solides vers vous, vers les proches, vers vos proches. Et on va se tourner quand même vers Jean-Marie Pelt, on va faire un petit tour en Lorraine. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Jean-Marie, quelles sont les nouvelles de votre jardin, que se passe-t-il?
Il y a des poireaux.
Ah, oui.
Et des choux.
Oui, bah oui, c'est ça. C'est... Oui, je m'attendais, je sais pas, des oiseaux, des pinsons.
Des grues cendrées, non, elles ne sont pas là.
Quels sont vos vœux pour cette année?
Il y a les vœux habituels pour chacun d'entre nous, pour le bonheur. On disait tous nos vœux de bonheur autrefois, quand j'étais un petit garçon. Et puis alors, il y a peut-être à faire des vœux pour la terre.
Oui.
La terre qui nous porte, sans laquelle nous ne pouvons évidemment pas exister, puisqu'il n'est pas question qu'on aille ailleurs d'ici très 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 longtemps. Et puis la terre qui peut-être ne nous supporte plus très bien, parce que nous sommes insupportables. Mmh. Alors moi je rêve d'une écologie qui ne soit pas celle qu'elle est devenue maintenant, purement technicienne et politicienne, comme une sorte d'ajout à toutes les questions de société, et un ajout qui n'est plus dans les médias d'ailleurs, parce que l'écologie a quitté les radars des médias. Moi je souhaite une écologie qui intègre les valeurs universelles d'humanisme, de solidarité, de spiritualité. Et j'ai tout d'un coup, en pensant à ça, inventé un mot, quelque chose qui serait une méta-écologie.
Oui.
Comme la physique.
Comme la métaphysique.
Il y a aussi une métaphysique. Ça va plus loin que la physique technique, que la physique scientifique. Ça va plus loin. Ben, pour l'écologie, c'est pareil. Il faut que l'écologie aille plus loin, qu'elle intègre mieux et plus, et qu'on le sente, des valeurs. Et de ce point de vue, évidemment, nous rêverons à une belle convivialité entre tous les habitants de la planète, humains et non humains. Bon, alors ça peut ressembler à une utopie. Mmh. Mais l'utopie, disait Théodore Monod, c'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui n'est pas encore réalisé.
Et puis une autre personne disait que l'utopie, il en fallait beaucoup parce que ça réduit beaucoup à la cuisson. Jean-Marie Pierre Rabhi, que nous connaissons bien, qui est un ami, nous dit avec un certain sourire qu'il n'y a pas que la prise de conscience, parce que pour lui, la prise, si vous voulez, c'est un peu comme si on branchait notre conscience sur l'électricité. Donc, il pense qu'il y a une élévation à faire. On doit passer une espèce de conscience supérieure. Est-ce que ce sont les événements qui vont dicter cela? Est-ce qu'on va être capable, à un moment, d'avoir un peu plus, allez, allons-y, de recul et de sagesse?
Écoutez, chacun constate bien que le système dans lequel nous vivons est très malade,
ah oui.
Qu'il y a une crise profonde, pas seulement une crise économique, une crise profonde des repères, des valeurs, des références, des croyances, à tout point de vue. Et nous allons être poussés à faire autrement. Mais faire autrement, c'est pas seulement mettre une toilette sèche
oui. dans votre jardin où il y a des poireaux.
Dans le jardin où il y a des poireaux, c'est pas seulement être un bon écolo, c'est aussi être un gentil écolo. Mmh. Alors, imaginez un couple qui est hyper écolo jusqu'au bout des ongles, où les relations humaines sont désastreuses,
oui.
Où on se dispute tous les jours. Alors, il manque quelque chose. Donc, il faut rajouter ce plus humaniste, amical, fraternel à l'écologie, qu'on ne sent pas. qu'on ne sent pas quand on voit comment les vers s'y prennent ensemble entre eux. On sent pas ça. C'est ça qu'il faut sentir, et c'est ça qui est, à mon avis, la grande révolution des cœurs et des esprits qui doit se faire peu à peu. Plus vite ça sera, mieux ça sera.
Mon père disait, technocrate, si on leur donnerait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Alors il avait écrit dans les administrations, monsieur, je m'excuse de vous déranger pendant la sieste. Alors voilà, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai fait comme on m'a demandé 2 enfants,6. J'en ai eu 3, j'ai pas trouvé la virgule. Bon. Et maintenant, j'ai plus de travail, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fais. Et les mecs, ils ont répondu, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez. C'est sympa quand même, hein. Faut pas oublier, hein.
Une autre révolution qui est peut-être en cours est celle de la démographie. C'est plus du tout un sujet tabou aujourd'hui.
Oui. Bon, durant ma vie, la démographie a plus que triplé.
Oui.
Passant de 2 milliards à 7 milliards. C'est extraordinaire pendant une seule vie humaine. Voilà. Mais ce qui est réconfortant, c'est qu'on s'aperçoit que l'horizon 2050, nous serons 9 milliards, peut-être un peu plus. Mmh. Mais qu'il y a une tendance à une chute de la fécondité qui est beaucoup moins importante qu'elle ne l'était encore il y a 20 ans. Rappelez-vous, Cousteau disait que la Terre se peuple d'une Chine entière tous les 10 ans. C'est plus vrai aujourd'hui. C'est plus vrai aujourd'hui. Les taux de fécondité sont, dans de nombreux pays émergents, tombés en dessous de 3, alors qu'il faut 2,1 pour le renouvellement de la population à l'identique. Donc moi j'ai bon espoir qu'en matière démographique, nous allons aller vers une stabilité. En tout cas, c'est ce que dit, j'ai vu ça hier, donc je suis tout à fait dans les chiffres, ce que dit l'ONU semble être attesté par d'autres spécialistes de cette matière. Il y a un ralentissement de la démographie, heureusement.
Merci beaucoup, cher Jean-Marie. Je vous laisse préparer votre soupe de poireaux ou de choux.
Oui.
Et puis on vous souhaite une bonne année, et puis à très bientôt de toute façon.
Bonne année à tous et à bientôt.
Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Alors ce numéro, vous le connaissez, 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35, c'est le numéro de CO2 Mon Amour qui fonctionne parce qu'on a eu quelques légers soucis, on peut le dire. On a eu beaucoup de messages qui vont passer, on va dire, tout au long de ce mois de janvier, puisque ce sont les vœux qui viendront agrémenter donc cette émission, donc n'hésitez pas. Puis aussi pour vos informations, vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos vœux, tout ce que vous souhaitez. Et voici celui-là.
Pour 2014, Xavier et tous les gnangnans râleurs vous souhaitent une année belle et respectueuse pour notre pays, donc pleine de difficultés pour les grands projets inutiles et ruineux, comme la méga salle Arena à Dunkerque, la méga décharge de Nonant-le-Pin dans l'Orne, ou la ligne TGV en Provence, et tant d'autres projets inutiles malheureusement. Bonne année tout de même, au revoir.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But do that, do that, do that, but bona body, but do the battle, but buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. It was hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring
and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, Senorina, kiss me goodnight. Buonasera, Senorina, kiss me goodnight. Buonasera, Senorina, kiss me goodnight.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Bonjour Denis, voici mes vœux pour l'année 2014. En fait, j'aurais aimé en 2014 avoir un État fort qui fasse respecter les lois, en particulier les lois de protection de la nature, la limitation à deux du mandat des maires pour éviter les monarchies républicaines, la fin des grands projets inutiles comme Notre-Dame-des-Landes, la Syrie du Morvan-Esquia, le projet d'extension du port de Plaisance au détriment de la plage boisée sur le bassin d'Arcachon, le projet de Scott, toujours du bassin d'Arcachon. Et enfin, je voulais souhaiter pour chacun le bonheur de pouvoir se promener dans une nature respectée, et la dernière des choses, longue vie à CO2 mon amour. En vous remerciant Denis pour cette émission qui donne envie de se battre, je vous souhaite une excellente année 2014. Au revoir.
Merci à vous pour ces vœux partagés avec l'ensemble des auditeurs, vous toutes et toutes qui nous écoutez. Alors on a eu en fait, on a une douzaine vraiment de messages sur Notre-Dame-des-Landes, donc on a un peu concentré l'affaire, hein. Il ne s'agit pas du tout de les censurer, mais c'est vrai que c'était à peu près le même sens, on n'en veut pas, voilà, en gros c'était ça. Et puis de toute façon d'autres messages reviendront au cours de cette émission, et je vous le dis, au cours des 3-4 prochaines semaines. Bonjour Jean-Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessou. Bonjour à tous. Bonne année.
Mais bonne année, mais oui absolument. Aux gens du Nord, parce que c'est un ch'ti, il faut le rappeler.
Aux gens du Nord, de Caudry, de la Dentelle, de Cambrai, du Sud, du Nord. Voilà,
c'est ça.
Bonne année.
Ben voilà. Donc là, c'était le petit couplet régionaliste. Frédéric, donc ingénieur en environnement, auteur, écrivain, conférencier, intervenant régulièrement dans cette émission. Sans faire, si vous voulez, un bilan, on va dire, de 2013, qui est un grand classique, ça pourrait peut-être aller assez vite, mais plutôt, quelles sont les tendances qu'on vous avez pu retenir?
Alors, les tendances, c'est, pour reprendre les mots de Jean-Marie, on n'est pas encore dans la méta-écologie, on serait plutôt dans l'infra-politique, surtout à la veille des élections municipales. Néanmoins, il y a des tendances intéressantes que l'on voit. Disons qu'il faut voir le verre à moitié plein, là où on pourrait être tenté de voir le verre à moitié vide. L'écotaxe, l'absence totale de débat possible sur le nucléaire, sur les OGM, sur les grandes questions d'environnement, montre quoi ? Montre un pays bloqué. Un pays bloqué, une société qui n'arrive pas à se sortir du manichéisme, du dualisme, de la bipolarité du débat. Et on le voit bien avec l'écotaxe. L'écotaxe qui n'a fait que cristalliser un mal-être, hein, que l'on mette un bonnet rouge ou qu'on n'aille pas voter, finalement c'est un peu la même chose. Mais derrière, il y avait une volonté de réforme, une réforme intelligente, une taxe intelligente, en cela qu'elle était symbolique de la nouvelle société vers laquelle on devrait aller. Et non, on peut pas. On peut pas parce que justement, ça remet en cause trop de choses. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est quand une société est bloquée, c'est qu'elle a envie de changer, c'est qu'elle sait qu'elle est poussée par le monde d'avant pour aller vers un monde qui reste encore à inventer.
On est dans cette frange-là aujourd'hui.
On est dans un entre-deux. Oui. Et donc, dans l'entre-deux, ben, ça crie, ça se dispute. On n'est pas dans l'écologie des sentiments chers à Jean-Marie Pelt. On a besoin de bâtons totems sur lesquels taper, autour desquels tourner en espérant le sauveur. On le voit bien avec l'écotaxe, hein, on a tapé sur les portiques comme on tape sur les OGM comme des sourds, pour ne pas avoir à critiquer le modèle agricole. Voilà, on en est là.
Comme on tape aussi sur les loups, ça peut arriver.
Comme on tape aussi sur les loups, bien sûr. Hein, qui sont évidemment responsables de tous les maux de l'agriculture paysanne et pastorale. Non, moi, dans tout ça, je vois une société qui a la prise de conscience est faite. Tout le monde a compris, on le voit, chacun de nous qui intervenons en province, tout le monde a compris que la société d'aujourd'hui n'est plus tenable, qu'il faut aller vers autre chose, une société plus coopérative, donc plus écologique au sens ethnologique du terme.
Plus horizontale.
Plus horizontale, mais en même temps, donc remise en cause à des pouvoirs centraux, des micro-monarchies, comme l'a dit notre auditrice, donc un État fort qui ne soit pas en même temps une monarchie. On sait qu'il faut aller vers tout ça et on connaît les pistes, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Alors, mais on y arrive tout doucement.
Ce que l'on constate quand même, c'est que les municipalités ont beaucoup changé, ah oui. Que ce soit des communautés de communes, des métropoles, etc. Enfin, là, ça a quand même énormément bougé en l'espace, on va dire, d'une dizaine d'années.
Mais il suffit de comparer les professions de foi des candidats municipaux aujourd'hui avec ce que c'était il y a 10 ans avant le Grenelle. Aujourd'hui, on ne parle que de verre, on ne parle que de transport en commun, on ne parle que de protection de terres agricoles, on parle de pollution de l'air, on parle de tous ces sujets qui auparavant classait le moindre élu dans le rang des extrêmes gauchistes avec des bonnets en daim et des pulls qui grattent. Ça, c'est terminé dans tous les bords politiques. On a des maires qui font des choses. Alors, ils y sont tenus, ils sont obligés, mais c'est aussi une demande de la population. Et en fait, on voit bien, pardon Denis, qu'avec ces questions d'environnement, les maires et en tout cas les collectivités locales sont en train d'obtenir une réelle décentralisation. On a souvent parlé dans cette émission, une réelle décentralisation d'action. Pourquoi ? Parce que si les problèmes sont globaux, les solutions sont locales et l'État permet aux collectivités locales d'avoir une action locale. Et ce qu'on voit là en 2013 et ce qu'on verra de plus en plus en 2014, c'est que pour avoir une action cohérente, notamment au sein des SCOT, dont a parlé notre auditrice, eh ben, il faut des intercommunalités.
Ce sont les schémas de cohérence territoriale voilà. Qui donc donnent une vue d'ensemble beaucoup plus importante.
Sur les 20 ans à venir et sur un bassin de vie qui n'est pas tout à fait circonscrit à la ville dominante. Et donc, la décentralisation s'obtient finalement réellement par l'environnement. En même temps, les communes se diluent dans des intercommunalités, lesquelles sont en train de se diluer dans des espèces de constructions néo-médiales qui s'appelle les métropoles. On le voit à Lyon, hein, oui. la métropole
qui a bouffé
le département du Rhône, Nice qui est en train de bouffer le département des Alpes-Maritimes, Bordeaux qui mangera sans doute le département de la Gironde. Ça pourrait être inquiétant.
Ils ont encore de la marge, je crois. C'est le plus gros département de France en superficie.
C'est vrai, mais en termes d'attribution des pouvoirs, oui, de gestion des budgets, on va vers la métropole. Et ça remet en cause fondamentalement l'image et l'imaginaire politique en France. Oui. Et tout ça est en train de poindre, on le voit partout. Simplement, il faudrait effectivement peut-être que l'État engage des actions qui permettent de polymériser tout ça. Mmh. Moi, je suis assez confiant pour 2014. Et vous allez voir qu'après les municipales, il y aura plein de choses intéressantes. Il y aura la vignette auto sur la pollution. Il y aura les maires qui vont pouvoir lever l'impôt du stationnement eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire que les amendes, c'est eux qui vont pouvoir le faire. Là, jusqu'à présent, ils ne disent rien. Mais on en a déjà parlé dans cette émission. Vous allez voir. Et ça va changer beaucoup de choses au niveau des mairies, au niveau de la circulation automobile.
Vous restez avec nous,
bien sûr, Denis.
Moi, tiens, alors vous connaissez la forêt de Chaux.
Oh oui.
Hein ? Donc nous sommes dans le Jura.
Mais bien sûr.
Allez, je vous emmène, vous allez comprendre. Voilà, là c'est notre petite balade de nature dans cette forêt de Chaux, qui est une ancienne forêt de brigands. Vous avez le Jura, évidemment, qu'il y a le massif du Jura. Mais nous avons dans la plaine cette superbe forêt, qui est la deuxième forêt française, en superficie de feuillus. Nous avons des hêtres, nous avons des chênes qui sont superbes. Et comme nous sommes dans cette période de vœux, eh bien avec Alain Gois, qui est un ancien de l'ONF, qui est un formidable raconteur, qui est un passionné des éléments naturels, qui récolte dans sa région, on va découvrir dans cette forêt de Chaux, dans le Jura, un arbre à vœux.
On a deux sortes de chênes. On a des chênes porteurs de vierges. Alors là, c'est intéressant parce que on retrouve les dévotions qu'on a toujours fait au pied de certains arbres qui ont été toujours des lieux de culte. Hein. L'homme s'est toujours rapproché des arbres quand il a été en besoin, quand il a été en souffrance. On va vers certains arbres pour se confier, pour retrouver un petit peu d'assurance, pour confier ses peines, ses misères. Et l'arbre est un médiateur entre le ciel et la terre. On dit qu'il converse avec les génies ailés, avec ses branches, il a contact avec les puissances infernales, avec ses racines. Le tronc de l'arbre, c'est le médiateur, c'est le combiné téléphonique. Et d'ailleurs, les premiers lieux de culte, les druides, plus tard la religion chrétienne qui viendra s'installer là, eh bien, choisiront les premiers lieux, seront des lieux forestiers. D'ailleurs, quand on va installer les églises, les piliers des églises, ça représente quoi ? Ça représente la forêt originelle, la forêt des premiers lieux de culte. Alors, on a, nous, des chênes qui ont été christianisés, donc, par le dépôt de représentation de la Vierge à l'intérieur. Donc, c'est ces fameux chênes à Vierge qui sont des chênes sacrés. Mais on a aussi un autre chêne, alors, qui est assez particulier. On va aller à son pied. On va aller à son pied parce que je pense que c'est là qu'on en parlera le mieux.
Ah, ça y est, on y arrive.
Voilà, on l'aperçoit là. Alors déjà de loin, on voit que c'est un arbre quand même qui est d'importance. Hein.
Oui.
C'est un arbre qui a à peu près 250 ans d'âge, à peu près, hein, en gros. Il en impose déjà par sa masse, par sa taille.
Mais il ouvre ses grands bras vers le ciel.
Il a quelque chose de tout à fait particulier. Alors déjà, le chemin qui y mène est fortement piétiné, parce que ça attire énormément de monde. Et on voit que dans les infructuosités de son écorce, là, dans les fentes de son écorce, on va trouver une multiplicité de petits bouts de papier. Alors, c'est un arbre à vœux, c'est un chêne à vœux. Alors, c'est le seul qui est en Franche-Comté. Les arbres à vœux en France sont très rares. Il y a quelques arbres comme ça qui sont dans les Ardennes, où on va. Ce sont des arbres à loques. Généralement, ce sont des tilleuls où on va mettre dessus des vêtements d'enfants. Des enfants malades qui n'ont pas pu obtenir de guérison. Et en dernier recours, on va porter vers le tilleul donc un des vêtements de l'enfant, de manière que l'arbre intercède pour obtenir la guérison. Là, c'est tout à fait autre chose. On voit des petits bouts de papier. Alors, il y en a plein.
Quand on est glissé en fait, dans l'écorce, dans les plis de l'écorce, jusqu'à à peu près 2,50 m de hauteur.
Voilà, oui, il y en a certains, je me demande comment ils font pour les mettre aussi haut. Oui. Ils doivent faire la courte échelle. Quand on vient à la fin de l'été ici, l'arbre est tout blanc. Tout est vraiment chargé. Il n'y a plus de place du tout. Tout simplement, quand on a un vœu, un espoir, un désir, quelque chose comme ça, eh bien, on marque ça sur un petit morceau de papier qu'on va confier donc à l'arbre. Et si ce vœu est recevable, s'il est fait avec sincérité, eh bien l'arbre va intercéder de manière à ce que le vœu se réalise. Alors c'est un arbre tout à fait extraordinaire et ce sont des vœux là qui sont marqués en japonais, en chinois, en cyrillique, en tout ce qu'on veut.
C'est un arbre polyglotte.
Et c'est extraordinaire, c'est que cet arbre-là, il est capable de traduire toutes les langues du monde.
Évidemment.
Alors ça, c'est le seul chêne polyglotte que je connaisse. Alors ça, c'est quand même formidable.
Voilà. On ne regarde pas, hein.
Alors, ça laisse, le fait de lire un vœu le détruirait. Donc jamais on ouvre un de ses vœux, il est confié à l'arbre, il n'y en a que deux qui sont possesseurs du secret, c'est l'arbre et celui qui l'a écrit, bien sûr. Et quelquefois on trouve au pied des morceaux des vœux qui sont tombés. Alors on me pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'il y a des vœux qui tombent? Alors deux raisons, soit le vœu n'a pas été fait avec sincérité et l'arbre le rejette, et puis il y a des vœux qui sont réalisés. Donc eh bien, ma foi, il fait de la place pour les suivants.
Il y a un bureau de vérification des vœux.
On a un cahier ici au baraque du 14, là, non loin de cet arbre, on a un cahier qui recueille les témoignages de ceux qui reviennent, bien sûr.
Mais c'est très émouvant, hein. C'est très païen, quoi. Donc.
Oui, là, on retrouve bien évidemment cette tendance de se rapprocher du végétal, de se rapprocher de cette puissance qui nous impressionne tant, en fin de compte. Quoi, lui, il est le témoin du temps. Nous sommes qu'une petite étincelle dans sa vie, là, qu'un petit feu follet.
Moi, je pose juste ma main dessus parce qu'il va y avoir une énergie
Oui, c'est vrai
importante.
Que il se dégage une force.
Ah oui, il se dégage une force.
L'arbre à vœux dans le Jura, dans cette forêt de Chaux. Alors évidemment, il y en a un certain nombre comme ça en France. Donc tous ces reliquats du paganisme, l'on va dire, avec donc Alain Goy qui nous servait de guide. Et évidemment, c'était le moment d'en parler de cet arbre à vœux et d'autres vœux. Bah tenez, on va rejoindre Corinne Lepage qui est avocate et députée européenne. Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour Denis Chessou, bonjour à toutes et à tous et excellente année.
Ben oui, c'est ce que nous allons faire. On va souhaiter plein de choses à nos amis qui nous écoutent et aussi vos vœux pour on va dire l'environnement, pour l'écologie, quel serait-il, s'il vous plaît?
Le bon sens. Un peu de bon sens, s'il vous plaît, monsieur, dame. Un peu de compréhension de ce qui se passe réellement. Ouvrez les yeux. Arrêtons de jouer au petit singe qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas voir et qui ne veut pas parler.
C'est-à-dire que derrière tout ça, changement de quoi? De politique, de pensée personnelle, de pensée collective?
Oui, et puis arrêtons d'être stupides en utilisant les outils que nous avons pour les utiliser en fait contre nous, les outils économiques. Je vous donne un exemple. On parle du charbon. Le charbon qui est très bon marché, mais le charbon ça devrait être très cher. Mmh. Ça devrait être très cher parce que ça pollue énormément. Donc un peu de fiscalité écologique, qui permettrait d'alléger d'autres charges, d'ailleurs dans le même temps, permettrait qu'il soit rentable d'investir dans les énergies renouvelables, par exemple. Donc voilà, je crois que c'est notre modèle de développement économique qui doit être revu, parce qu'on peut tout à fait développer des entreprises, avoir du boulot, avec des activités qui sont celles de la troisième révolution industrielle et de ce que j'appelle l'économie. Si on n'avait pas les outils, si on n'avait pas les solutions, on arrêterait de parler de tout ça. Mais ce qui est absolument insupportable, c'est qu'on a tout ce qu'il faut en magasin, sauf qu'on ne l'utilise pas.
Alors si on ne l'utilise pas, c'est parce que ce vieux monde, on va dire encore du XXe siècle, ne veut pas mourir et qu'on reste sur les mêmes idéaux, un peu...
Oui, parce que ce vieux monde, il est singulièrement puissant, qu'il a eu le temps de tisser tous les réseaux qu'il fallait, là où il fallait, avec des experts bien dépendants qui vont pouvoir dire qu'on va faire du charbon propre, qu'on va trouver les solutions par la capture, la séquestration du carbone et qu'on peut donc continuer avec le pétrole, que les énergies renouvelables ça marche pas, voilà, et donc je parle pas des questions de santé qui deviennent absolument terrifiantes. Donc des experts bien dépendants, des lobbies extrêmement puissants qui ont les relais politiques qu'il faut, et tout ça fait que quelques confrères à vous, excusez-moi cher Denis Chessoux, qui ont l'oreille de ces lobbies, font que les choses paraissent impossibles alors qu'elles le sont évidemment tout à fait possibles et souhaitables.
Dans les vœux, quelle serait la place de l'individu? Parce que chacun se dit, ok, ces constats, ben, on les voit, et en même temps on n'a pas envie de baisser les bras, et on voit aussi beaucoup d'initiatives qui viennent de la société civile.
Faites-le vous-même, on peut tous faire. Là où on est, on peut tous faire quelque chose. On peut le faire seul et on peut le faire de manière collective. Et c'est par hasard si aujourd'hui d'énormes initiatives collectives se mettent en place grâce aux réseaux sociaux, parce que nous avons, nous, les gens du Nouveau Monde, un outil formidable, ça s'appelle Internet. Et Internet, ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. Et ça permet de mettre en connexion tous ceux qui voient le monde de la même manière et qui sont d'accord pour essayer d'apporter leur pierre pour le changer. Voilà, et les grands espoirs, c'est ça. C'est cette coopération nouvelle qui se met en place dans le domaine de la consommation, de l'alimentation, des circuits courts, des nouveaux modèles de production. Voilà, c'est tout cela. Et puis j'espère qu'il y aura des débouchés aussi de nature politique, de manière à faire en sorte que les citoyens décident de s'autogérer. Un peu. Ça ferait du bien, ça changerait.
Merci beaucoup Corinne Lepage et puis à très bientôt.
Merci
puis...
Denis Chessoux.
Et belle année à vous. Merci.
Belle année.
Il y aura d'autres vœux. Oui, il y aura d'autres vœux. Mais après le Jura, tenez, je vous propose une petite goutte comme ça d'Auvergne.
Dans les eaux de la ligne,
L'eau et la rivière avec les gaietés de Jean-Louis Murat. Nous allons poursuivre donc ses vœux. Vœux à volonté, et oui, avec un homme, on va dire, comme un poisson dans la biodiversité. C'est le propre de Gilles Boeuf, qui est président du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, fraîchement élu au Collège de France à la chaire Développement Durable, Énergie, Environnement et Société, océanographe, spécialiste des fonds marins, enfin des fonds, pas que des fonds d'ailleurs. Donc on va vous rejoindre, non pas à New York où le manteau blanc est épais, mais c'est pas très loin. Bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour Denis.
Vous avez fait un petit créneau, me semble-t-il, parce que vous avez beaucoup de neige là en ce moment. Hein,
il y a eu pas mal de neige, mais ça s'est un petit peu calmé, ça devrait reprendre demain assez fort dans les Pyrénées orientales.
Parlons de ces vœux, que souhaitez-vous?
Alors moi c'est très clair, hein. Je veux vraiment un changement profond dans la mentalité de l'humain aujourd'hui vis-à-vis de ses relations avec l'environnement. Beaucoup moins d'arrogance, hein. Et là je regarde encore les événements de la fin de l'année 2013, on continue de la même façon. Beaucoup plus d'humilité, on a dit, beaucoup plus de partage aussi, hein, entre les humains et avec les non-humains, hein, c'est très très important. Essayer de beaucoup moins rompre l'harmonie que ce qu'on a fait pendant toutes ces années récemment. Et puis enfin, c'est vrai qu'on va vers quelque chose où il faudrait une situation où on arrête de jouer une économie sur une destruction des écosystèmes et sur une surexploitation. Je pense que si on arrive à gérer ces questions-là, bon, peut-être que l'humanité ne sera pas en aussi grand mal-être que cela.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour ce qu'on appelle, on va dire, découpler en fait l'augmentation de ce fameux PIB qui est encore la seule référence qui existe, et puis les matières premières?
Le PIB a été à une époque, disons, un indicateur.
Un très bon indicateur, oui, à la sortie de la guerre, oui.
D'une croissance, et puis mais aujourd'hui, c'est plus du tout un indicateur de bien-être. Or, c'est ça qu'il faut qu'on cherche aujourd'hui. C'est pas un indicateur économique en disant 3 points de plus, 2 points de plus. Je préfère honnêtement faire un demi-point que faire 10 points si ces points sont basés sur une destruction systématique des écosystèmes et sur une surexploitation. Il nous faut trouver autre chose, passer sur une économie beaucoup plus éco-centrée qu'une économie strictement anthropocentrée comme elle l'est aujourd'hui. Et là, c'est vraiment un changement profond. C'est pas du tout la fin du monde, hein, mais c'est la fin d'un monde très certainement. Arrêtez la spéculation, hein, et arrêtez la destruction systématique de l'environnement.
Nous sommes en période de mutation. Alors, que peut-on dire au niveau des océans aujourd'hui ?
On vit un phénomène aujourd'hui extrêmement inquiétant qui s'appelle l'acidification globale. Hein, c'est un mot qui paraît un peu compliqué. Simplement, les rejets de CO2 ne sont pas dommageables que pour le problème des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la température qui monte. Ils sont également très dommageables pour l'océan puisque ce CO2 que l'on émet se dissout dans l'eau, et dissout dans l'eau fait de l'acide carbonique qui va acidifier l'océan. Et là, en 30 ans, l'océan, il est 30% plus acide. À la fin du siècle, il sera 50% plus acide. Et le vivant qui sait assez bien se débrouiller avec la température qui change, si elle change pas trop vite, aura beaucoup de mal avec ces problèmes d'acidification. Ça va créer des problèmes pour les coraux, pour la croissance de leur squelette, pour tous les coquillages aussi. Et puis sinon, il y a la question d'exploitation également, bien sûr, hein. La pêche, pourquoi pas? Je suis pas du tout un anti-pêche, je suis un anti-pêche stupide, hein. On parle de ressources de l'océan renouvelables, parce qu'elles sont vivantes, c'est la définition même de l'océan. Et là, on extirpe tellement qu'on dépasse les seuils de renouvelabilité et on finit par exploiter comme si on faisait sur du nickel ou du fer. Hein. Donc ça, c'est totalement impossible de continuer comme ça. Il faut qu'on arrête, qu'on réfléchisse et qu'on gère beaucoup mieux ces environnements. Et l'océan est bien sûr très très concerné. Hein.
Gilles Boeuf, quelle image vous avez envie de nous envoyer? Peut-être, je ne sais pas, peut-être des Pyrénées-Orientales que vous quittez actuellement.
Les Pyrénées-Orientales où je suis, c'est merveilleux parce que j'ai des sommets là, le Puy Chemin juste en face qui est absolument magnifique, enneigé. La mer, elle est à une encablure, elle est pas loin du tout, hein. Et c'est vrai que cette conjonction, cette région de France entre des fonds océaniques à 2 km de profondeur face à Banyuls et puis le sommet du Canigou à 3000, on a des écosystèmes extraordinaires de moins 2000 à plus 3000. Et il faut que l'humain arrive à vivre en bien meilleure harmonie avec ces écosystèmes. C'est très beau, ça nous plaît beaucoup, ça constitue une grande partie de notre bien-être. Alors de grâce, respectons-les beaucoup mieux.
Merci beaucoup Gilles Boeuf, et puis à très bientôt. Au revoir Gilles.
À bientôt Denis. Au revoir, merci.
Alors il était dans les Pyrénées, hein, vous étiez dans les Pyrénées-Orientales. On va aller pas loin, on va aller dans les Hautes-Pyrénées. Et là, on va au milieu de la neige retrouver des enfants. On n'est pas très très loin de Lucin-Sauveur. Ah, qu'est-ce qu'on fait ici?
Un igloo, ça ressemble à une petite maison, un trou de souris.
Il y a de la place à votre igloo là pour
toujours
moi?
Toujours passer, toujours péter.
Bon alors attendez, là je plonge la tête dans votre igloo.
Mais il n'y a pas assez de place.
Oui, bah c'est ce que je vois, dis donc. Alors il y a une ouverture qui doit faire à peu près 30 cm de haut. Alors comment vous l'avez fabriqué cet igloo? Racontez-moi.
Avec des briques, avec de la neige. On les a mis en bas. Après, on fait comme ça. On le lisse.
Ça se fait avec de la neige.
Non,
oui.
C'est vrai. Un vrai, ça se fait avec de la glace. Un vrai glou, c'est avec des morceaux de glace.
Avec de la neige.
Avec de la neige, de la glace.
Et après, on fait la porte et les fenêtres.
D'abord, on fait des carrés, des rectangles plutôt.
Oui.
Et puis, on les entoure. On en fait assez grand, on les entoure comme ça. Mais un cercle entier. Puis après, on le monte et puis on le décale un peu. On le décale chaque rectangle pour que ça fasse comme ça.
Un arrondi.
Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui reste dedans. Puis après, Avine aussi fait la porte comme ça.
Bien sûr, mon petit, je connais pas ça.
Et t'es comment?
Eh bien, tu vois la mer?
La mer, le grand truc tout noir devant nous qui fait des moumous?
Exactement, mon petit. Eh bien, cette mer, autrefois, était bleue. Et dedans, il y avait tout un tas de bestioles à peu près grandes comme ça, couvertes d'écailles qu'on appelait les poissons.
Eh, papa, t'as connu, toi, les âmes?
Ah, j'ai bien connu les âmes, mon petit.
Et t'es comment?
Eh bien, tu vois ce pilou?
Ouais.
Eh bien, c'est à peu près grand comme ça, tout marron, avec en haut tout un tas de trucs verts, un peu comme du papier. Alors, t'as pas connu le papier, toi? Enfin, on appelait ça des failles.
Et c'est passé où tout ça, papa?
Eh, mon petit, c'est passé où? C'est passé que. C'est passé que ça s'est mal passé, mon petit. Qu'on les a bouffés. On les a mangés.
T'as tout mangé?
Bah, oui.
T'as pas laissé pour les autres?
Eh ben, c'est un peu bronzé, mon petit. Enfin, non, la télé nous disait qu'il n'y en aura plus en 2048. Donc, si tu veux, comme il n'y allait plus en avoir, tout le monde en voulait. Comme tout le monde en voulait, bah, tout le monde en a eu. Et comme tout le monde en a eu, tout le monde en avait.
Il n'y en a plus.
Exactement, mon petit. Il n'y en a plus.
Eh bien, je vous souhaite et je nous souhaite une bonne année 2014. Avec plus de culture écologique et aussi surtout l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Au milieu des champs et du bocage nantais, nous étions des milliers de manifestants à former une longue chaîne contre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Au moment où il faut baisser les gaz à effet de serre et préserver la biodiversité, personne ne comprendrait qu'on fasse un aéroport. Rendez-vous est pris le 22 février pour une grande manifestation et redire non à ce projet, dépensier d'argent et de nature. C'est Marie et je vis en Loire-Atlantique, au Landreau, près de Nantes. Bonne année à tous.
Bonjour à vous et tout d'abord bonne année. Qu'elle soit une année de vrais changements. En différents points de vue. D'un point de vue écologique d'abord, en espérant que les consciences vont s'éveiller pour mieux respecter la nature. D'un point de vue économique ensuite, en espérant que le fossé qui se creuse chaque jour entre les plus riches et les plus pauvres se réduise enfin. Et d'un point de vue politique ensuite, en espérant que cette dernière va évoluer d'un système pyramidal à un système plus horizontal. On arrête des grands projets, comme le canal du Grand Nord, mais on persiste dans celui de Notre-Dame-des-Landes. C'était ras-le-bol du Sud-Ouest.
Et voilà, 01 56 40 40 35, Canal du Grand Nord, vous dites, ça peut se discuter, hein, Frédéric Doria.
Ça se discute, c'est même un projet tout à fait intéressant, justement pour éviter qu'il y ait trop de camions sur l'autoroute A. Hein.
Voilà, donc alors c'est vrai que c'est 100 km.
Oui.
Ben oui, enfin bon, là, il faut un petit peu savoir ce que l'on veut. Alors 2014, est-ce que l'on peut dire aussi, alors ça va peut-être un peu nous surprendre, mais que c'est l'année du charbon.
Ah mais plus que jamais, Corinne Lepage en a parlé, ça va être une année à l'image de la société, une année schizophrène, donc à la fois l'année du charbon et l'année de la qualité de l'air. Le charbon n'a jamais été aussi moderne parce qu'il n'a jamais été aussi peu cher et parce qu'il n'a jamais été aussi peu cher, les fabricants d'électricité qui utilisaient le gaz ferment leurs centrales qu'ils viennent de bâtir pour se reconvertir dans le charbon. Ça va être le charbon et les pétroles non conventionnels parce qu'il y a maintenant suffisamment d'argent pour aller chercher du pétrole très profond, très lourd, qui va demander beaucoup de capacité de raffinage.
Les sables bitumineux bien dégueulasses, etc.
Voilà, ça va être un énergie. Et en même temps, en Europe, on a une révision en cours de la directive sur la qualité de l'air qui va être extrêmement restrictive. La vignette auto, vous savez, en France, on a découvert que le diesel était polluant, que le diesel était sanitairement incorrect.
C'est fou, ça.
Voilà, avec les fabricants d'auto qui pensaient que ça améliorait la qualité de l'air. Bien sûr. Bon, on a découvert ça en France. Et les autorités françaises avec la vignette et les autorités, si tant est qu'il y en ait, européennes avec cette révision de la directive sur la qualité de l'air, vont accentuer la réglementation, les normes. Et on en a déjà parlé, on voit mal comment on pourrait encore brûler du diesel, voire du charbon dans les années qui viennent. Et cette directive va encore plus loin parce qu'elle pourrait toucher la biomasse. La biomasse est censée être à la mode, on brûle tout, on brûle du lisier de cochon en Allemagne, on brûle des déchets agricoles. Le seul problème, c'est que sur certaines unités qui ne sont pas suffisamment alimentées avec un four qui tourne en permanence, on émet beaucoup, beaucoup, beaucoup de cochonneries, dont de la dioxine. Et on en revient à la situation des incinérateurs d'il y a 20 ans. Donc voilà, à la fois du charbon, on connaît son côté à la fois polluant et très effet de sérogène, et en même temps une augmentation de la qualité de l'air. C'est bien ça la société, on est exactement entre les deux.
Bon, alors Frédéric Danhé, est-ce que l'on peut dire aussi que cette année serait une année de la mémoire? Et là, ça nous ramène malheureusement à ce que subissent actuellement nos amis bretons, c'est-à-dire des inondations.
Et oui, vous savez, quand il y a une inondation, on est toujours surpris. Alors, c'est le bonheur pour les chaînes d'information continue. Hein. On n'a pas, un coureur automobile qui se fracasse sur une piste de ski tous les jours. Donc, ça a permis de faire 24 heures sur Quimperlé les inondations. Et on a découvert que l'eau montait, que l'eau tuait, que l'eau ravageait. Donc, on accuse la périurbanité, on accuse les trottoirs, l'étanchéification, notre vulnérabilité augmentée. On oublie juste que Quimperlé est là depuis des siècles.
C'est une ville du Moyen-Âge.
C'est une ville du Moyen-Âge qu'elle est construite sur une rivière. Et on a juste oublié, on n'a plus aucune mémoire dans notre société parce qu'on n'a plus aucune culture du risque. On est effrayé dès lors que l'eau monte. Mais il y a encore 50 ou 60 ans, les personnes qui vivaient près des rivières savaient qu'il ne fallait pas installer de réseau électrique en bas à la cave au rez-de-chaussée, savaient que les choses précieuses, il fallait les mettre en haut, ils savaient qu'il fallait mettre des piles de côté pour alimenter la radio parce que c'est le seul moyen de communication quand il n'y en a plus d'autres. On n'a pas cette culture du risque, c'est ce que déplorent les assurances, notamment en France et dans l'ensemble du monde occidental. Donc il faut espérer que 2014, je ne vois pas comment 2014 pourrait être une année avec moins d'inondations. Il faudrait réenseigner le risque, enseigner la mémoire des aléas naturels qu'on a complètement perdu parce qu'on s'imagine que dès lors qu'on a bâti une digue, on est protégé. Bien, c'est faux.
Alors un peu plus, on va dire, du côté de la Loire, hein, avec cet esprit ligérien, parce qu'on sait que là, ça monte plus doucement.
Parce que c'est resté un fleuve globalement sauvage.
Voilà.
On n'a jamais perdu l'idée qu'un fleuve retrouve toujours son lit.
Et puis, Frédéric Danhé, est-ce qu'on peut aussi parler d'une année de la compensation 2014?
Oui, ça, on en parle beaucoup. La compensation, c'est vous construisez une autoroute, vous ravagez 100 hectares, vous compensez la centaine d'hectares perdus. Le seul problème, c'est quel indicateur on se donne. Hein. Est-ce que c'est un indicateur de temps?
Est-ce qu'on remplace des navets? Est-ce qu'on remplace par des tulipes, etc.
Voilà. Mais il y a tout un débat en Europe, il y a un débat en particulier en France sur comment on compense. Et l'idée, c'est bien de compenser les services écologiques, les fonctionnements, les habitats que l'on a perdus. Le tout est de savoir comment. Il y a un vrai débat là-dessus en France. Il y a des sociétés qui sont partie prenante. L'idée, ce serait que non seulement on compense habitat pour habitat, on perd une zone humide, on rebâtit une zone humide, ou on va mettre une zone humide dans un environnement déjà dégradé. Donc comme ça, il n'y a pas de perte de terres agricoles. L'idée, c'est surtout que l'opérateur, l'aménageur, qui a la responsabilité de compenser, compense et entretient pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Là, on a un suivi écologique jusqu'au bout. Et là, effectivement, compenser serait véritablement recréer une forme de biodiversité ailleurs. Et attention, parce que le corollaire de ça, c'est, et on le voit dans les débats, c'est non, on ne s'occupe pas de tout ça. On crée une agence qui monétarise la biodiversité. Vous avez perdu un hectare d'habitat, ça vaut autant, et nous, on se charge d'aller en recréer un autre. Et là, c'est très dangereux, parce que dès lors qu'on met un prix à la nature, on oublie la valeur sentimental, sensuel, ce tabou que devrait être la nature.
On va retrouver cette nature, mais autrement, à travers les propos d'un homme qui s'appelle Pierre Dubois. Alors, Pierre Dubois est un homme qui a écrit l'Elphéméride, vous l'avez entendu pas mal sur France Inter, et il nous offre cette petite pastille concernant le givre. Et moi, je ne savais pas, Pierre Dubois, que le givre était divinatoire.
Le gel est une espèce d'écriture. De toute façon, je pense que lorsqu'on regarde par la fenêtre, on voit plein de choses. C'est vrai que on a l'impression que l'oiseau a été inventé sur la fenêtre. Pour un point d'abord sur une goutte d'eau, quelque chose qui a donné à l'enfant l'envie de s'envoler. Et le papillon ou l'oiseau est né de cette espèce de contemplation, de cette petite pointe. Et là, le gel, la mer gèle et l'effet de la neige écrivent sur les vitres toute une histoire, toute une légende, et ce que l'année sera. Si l'année, par exemple, s'il y a des dessins, vous savez, il y a toujours des dessins de gel, comme ça, s'il y a des étoiles, tout en nuances, avec des arabesques, des douceurs, un labyrinthe, j'allais dire, elfique scintillant, ce sera une bonne année. Par contre, si tout est en pointe, si tout est en flèche, si tout est en angle et en épi, alors là, par contre, on a du souci à se faire.
On ne se quitte pas sans le répondeur. 01 56 40 40 35.
Waouh, super, le répondeur fonctionne. Bonjour, c'est Sylvie de Nantes. Voici quelques vers d'une poésie de Rosemonde Gérard que j'ai apprise à l'école, puis que j'ai apprise ensuite à mes élèves. Bonne année à toutes les choses au monde, à la mer, aux forêts. Bonne année à toutes les roses que l'hiver prépare en secret. Bonne année aux campagnols amphibies. Je répète, bonne année aux campagnols amphibies. C'était Sylvie de Nantes.
Ça existe, hein? Non, mais oui, parce que les gens disent, si vous êtes naturaliste, vous connaissez bien sûr le campagnol amphibie, mais qui est une espèce qui a été sauvée il n'y a pas si longtemps et qui a sa place, elle aussi, dans la biodiversité. Je ne vais pas vous demander une poésie, cher Frédéric Danhé, mais revenons aussi avec peut-être une année 2014 en ayant les pieds sur terre, sur le sol.
Voici dans la poésie, je vous la fais en ch'ti. Oui, une année au sol. On s'en rend compte de plus en plus qu'on manque de sol en France, qu'on manque de sol fertile. Et le sol, c'est un capital, c'est une assurance vie, c'est un puits de carbone, c'est un puits de biodiversité. Ça ralentit l'eau. Le sol, c'est formidable et personne n'en parle. On parle de biodiversité, la grosse, hein, l'otarie, le phoque, la baleine. On parle jamais du petit lombric. On parle jamais des sols. Mais les sols.
Alors ça vient quand même doucement, ça vient.
Ça vient. Et donc 2014, c'est un appel au peuple et aux maires. Devrait être une année des sols. Il faut protéger les sols. Les sols agricoles. Il ne faut plus les utiliser, même pour faire des logements. Faites-les sur des friches industrielles, faites-les sur des environnements dégradés ou alors faites-là la compensation, mais plus pas sur les terres agricoles et si possible que cette terre agricole soit au sol. Que cette terre agricole soit au sol, qu'elle soit moins labourée peut-être, qu'elle soit moins pulvérisée. Voilà, le sol, c'est la ressource naturelle renouvelable qui se renouvelle le moins vite et que l'on perd le plus. Donc il faudrait que 2014 soit l'année du sol.
Merci beaucoup, cher Frédéric Danhé. Vous reviendrez tout à fait régulièrement dans cette émission pour notre grand plaisir, pour cette parole libre, ouverte, comme vous l'avez au 01 56 40 40 35. J'ai dû vous le dire 10 fois, mais c'est pas grave. Vous avez aussi donc le site donc franceinter.fr. CO2 mon amour, vous laissez vos messages, vous discutez entre vous, ne vous gênez pas, vous podcastez, vous le renvoyez dans tous les sens. On aura bientôt notre merveilleux compte Twitter, nous aussi bientôt, donc je vous ferai signe dès que nous allons le mettre en place, c'est-à-dire que ça va aller assez vite. Merci à Éric Mainviel et Philippe Duclos à la technique aujourd'hui, à Stéphane Combe, au Émilie Judaïque, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, à Albert Houck, à Christophe Imbert qui a réalisé l'émission, Anne Gouzon qui nourrit les sites, et la semaine prochaine, nous serons avec un homme qui est à la fois philosophe et scientifique, qui parle aussi de l'environnement, c'est Bruno Latour. Voilà, vous savez tout, la tue du bon petit loup, ce sera demain à 19h54.